Bella figlia dell'amore, schiavo son te vezzi tuoi.
Mystique d'Occident, une émission présentée par Hélène. Voici quelques jours que nous sommes avec vous et que nous découvrons ensemble le Cantique des Cantiques grâce à de très belles homélies de grands pères de l'Église et de grands mystiques qui sont particulièrement Origène, Grégoire de Nice, Saint Bernard et Thérèse d'Avila. Ce sont ceux que nous avons choisis. Nous avons parlé avec vous longtemps des pères du désert pendant ces deux dernières années et maintenant donc nous allons enchaîner à la suite de ce poème sur les grands mystiques d'Occident. Cette transition donc sera tout à fait la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui avec Grégoire de Nice, dont je vous donne l'édition. L'édition c'est Migne, les pères dans la foi, et le titre c'est Grégoire de Nice, le cantique des cantiques. L'époux dit à son épouse, comme un lys parmi les épines, telle est ma bien-aimée parmi les jeunes femmes. Et l'épouse lui répond, comme un pommier parmi des arbres sauvages, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Mais quel est donc ce spectacle, nous demande Grégoire de Nice. La Sainte Écriture a coutume d'appeler forêt la vie sauvage des hommes, qui voit pousser les diverses espèces de passions et où les bêtes funestes se blottissent et se cachent, car naturellement inefficaces le jour, en plein soleil, elles trouvent leur force dans les ténèbres. Comme le dit le prophète, après le coucher du soleil, quand tombe la nuit, les animaux de la forêt sortent alors de leur tanière. Ainsi, comme le sanglier vivant dans la forêt a gâté la belle vigne de la nature humaine, selon le prophète qui déclare « le sanglier de la forêt la ravage et la bête des champs la dévore », ainsi le pommier pousse-t-il en ces lieux. Il s'agit certes d'un arbre, donc consubstantiel à la matière humaine. Mais il produit un tel fruit, capable de dulcifier l'essence de l'âme, qui se distingue plus de la forêt que ne le fait le lys des épines. Si le lys est charmant, il ne le doit qu'à sa forme, à son parfum, alors que la grâce du pommier touche également tous les sens. Sa beauté extérieure réjouit la vue, son parfum flatte l'odorat et son fruit contente le goût. L'âme purifiée contemple ainsi son fiancé, devenu pommier parmi les arbres de la forêt, il greffe sur lui toutes les branches sauvages de cette forêt et les dispose à se couvrir des mêmes fruits. L'âme, dont les sens sont exercés, déclare alors « son fruit est doux à mon palais ». Sans conteste, l'enseignement est ce fruit. Le prophète ne dit-il pas « qu'elles sont douces à mon palais, tes paroles, plus que le miel à ma bouche, dans le psaume 118. Comme un pommier parmi les arbres de la forêt, ainsi est mon bien-aimé entre les garçons. À son ombre, selon mon désir, je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. Les sens de l'âme sont tout à fait adoucis par la parole. L'ombre du pommier nous protège, en effet, contre les rayons des tentations. Ainsi, éviterons-nous la brûlure d'un tel soleil ardent au-dessus de nos têtes nues. Or, on ne peut se rafraîchir à l'ombre de l'arbre de vie que si le désir conduit l'âme vers lui. La chaleur ardente est repoussée, et l'ombre devient le siège où prend place l'âme qui a refusé le cercle des fléaux. Avec le désir, la beauté devient visible. Le parfum réjouit l'odorat, la nourriture développe le corps et adoucit le goût. L'ombre atténue la chaleur ardente. Le siège soulage de la fatigue. Le toit protège la maison pour celui qui l'habite. La colonne permet la stabilité. Et la pomme éclatante orne le toit. Tout ceci grâce au désir. Je suis blessée d'amour, dit-elle, je suis malade d'amour. L'âme célèbre alors l'archer, qu'elle félicite d'avoir bien visé. Il a en effet bien dirigé sa flèche sur elle. Je suis blessée d'amour. Elle indique la flèche qui a pénétré au fond de son cœur, et l'archer qui l'a lancée est l'amour. Or, nous savons par la Sainte Écriture que l'amour, c'est Dieu. Il envoie la flèche qu'il a élue, à savoir le Dieu Fils unique, sur ceux qui sont sauvés, et il a d'abord enduit la triple extrémité de cette flèche de l'esprit de vie, la foi en est la pointe. De la sorte, cette pointe introduit chez celui qu'elle atteint l'archer en même temps que la flèche. Comme le dit le Seigneur, « Mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons chez lui notre demeure. » L'âme qui s'élève par les progrès divins voit donc en elle-même la douce flèche de l'amour qui l'a blessée. Elle se glorifie d'une telle blessure lorsqu'elle dit « Je suis blessée d'amour ». Mais de quelle blessure? Quelle plaie suave qui permet à la vie de pénétrer en elle après avoir agrandi, comme une porte d'entrée, l'entaille provoquée par la flèche. En effet, à peine eut-elle reçu la flèche de l'amour, qu'aussitôt le tir se métamorphosa en joie nuptiale. Quelle est celle qui monte du désert comme une colonne de fumée, embaumée de myrrhe, d'encens, de parfums venus de pays lointains. L'exhalaison d'encens dépeint sa beauté, et cette exhalaison n'est pas simple. De fait, la myrrhe se mêle à l'encens, ainsi la grâce des vapeurs est un tout composé de deux parties. Et elles décrivent de la sorte la beauté de la fiancée. Le mélange de ces parfums constitue un autre éloge pour elle. La myrrhe est utilisée lors de l'ensevelissement des corps et l'encens est consacré dans une certaine mesure à la gloire de Dieu. Celui donc qui s'apprête à se consacrer au service de Dieu ne sera encens brûlant pour Dieu que si auparavant il a été mire, c'est-à-dire s'il a fait mourir ses membres terrestres, s'il a été enseveli avec celui qui a subi la mort pour nous, et s'il a reçu dans sa propre chair, par la mortification de ses membres, cette mire utilisée pour l'ensevelissement du Seigneur. Cela fait, toute espèce des arômes de la vertu broyés dans le cycle de la vie, comme en une sorte de mortier, produit cette poudre suave. Et celui qui vient à la respirer acquiert la beauté du souffle, car il est empli de l'esprit parfumé. Les pensées de la chair sont hostiles à Dieu, nous dit saint Paul. Il s'ensuit que l'amour divin naît de ce qui s'oppose au désir corporel, si bien que si d'un côté le relâchement, la licence, les marques de l'indolence entraînent ce désir, d'un autre côté, le courage effrayant et terrifiant devient matière de l'amour divin. Une fois que le caractère viril a frappé de stupeur la troupe du plaisir et l'a chassé, la beauté pure de l'âme se lève, apparaît ainsi, sans qu'aucune passion inhérente au désir charnel la corrompe. Comme une écorce de grenade est à joue en dehors de ton silence. C'est bien la pudeur qui est ici louangée, comme le prouve parfaitement l'enchaînement des termes examinés. La parole a d'abord fait de l'Église un corps, à l'image d'une fiancée, puis elle a réparti chacune des vertus, comme il convenait, à la description de la beauté du visage. Maintenant, elle recourt au feu qui échauffe les joues pour, de manière appropriée, louer la modestie, ornée de la pudeur, dans l'énigme de la grenade. En effet, ce fruit se développe sous une peau astringente, non comestible. C'est pourquoi son examen permet de l'interpréter avec bonheur et en toute adéquation dans le sens des réussites de la tempérance. Comme la nature épaisse de l'écorce de la grenade nourrit et protège la saveur du fruit qui se trouve à l'intérieur, de même une vie d'astreinte, de modération et d'austérité est la gardienne des biens de la tempérance. Là aussi, l'éloge de cette vertu est double, passant par ce qui apparaît dans cette vie de décence et par ce qui se développe dans l'impassibilité de l'âme, dont la louange vient non des hommes, mais de Dieu. En effet, la pudeur qui brille manifestement a son propre éloge, qui lui vient de ce que l'on voit. Or, il est aussi en dehors du silence et des prodiges cachés que seul peut percevoir cet œil qui voit dans le secret. Tu as pris mon cœur, ma sœur, ma fiancée, tu as pris mon cœur par un seul de tes regards, par une seule perle de ton collier. Certains ont traduit par un seul de tes yeux, dans l'unique. Quel est cet unique? Qu'est-ce qui est greffé sur le cou de la fiancée? Tu nous as donné du cœur par un seul de tes yeux, dans l'unique, ce qui est posé sur ton cou, dans l'unique, faisant ainsi écho par un seul de tes yeux, et nous l'interprétons comme dans ton unique âme, avec une omission. En effet, les âmes sont nombreuses dans chacun des êtres grossiers. Chez eux, les passions sont dominatrices et interviennent, tour à tour, dans le champ de l'âme, dont le caractère se modifie alors selon tantôt l'affliction, tantôt le plaisir, ou la colère, la peur, la lâcheté, le courage. Au contraire, l'âme qui regarde vers le Verbe a reçu le témoignage qu'elle vit avec l'âme unique, par l'unicité de la vie vertueuse. Le cantique poursuit. Pourquoi tes seins se sont-ils embellis, ma sœur, ma fiancée? Pourquoi tes seins se sont-ils embellis par le vin et l'odeur de tes parfums plus suaves que tous les aromates? Tous ceux qui font la volonté du Seigneur sont son frère, sa sœur et sa mère. Et la pure jeune fille, unie au Seigneur pour accéder à la chambre pure, est à juste titre dénommée fiancée. Voilà qui est évident à quiconque n'ignore pas ces paroles inspirées par Dieu. Moi qui cherche à étudier le sens de ces propos divins, je ne vois pas dans cette appellation une simple éloge adressée par le Verbe à la fiancée, mais je considère que le fiancé énumère les raisons du progrès qu'elle accomplit vers la beauté. Aurait-elle acquis cette beauté dans les sources des bons enseignements si d'abord elle ne s'était pas rendue sœur du Seigneur par ses bonnes œuvres et si elle n'était pas devenue renouvelée en sa virginité par la naissance d'en haut, la promise, la fiancée de celui qui l'a prise pour compagne? Ainsi, quand il l'a appelée sa sœur et sa fiancée, a-t-il fourni la cause du changement de ses seins en un sens divin et plus achevé? Ses seins ne donnent plus le lait pour nourrir les enfants, mais ils font couler, pour réjouir les plus parfaits, le vin pur, dont l'eau des cabaretiers n'a pas altéré la grâce. Ces paroles sont l'indice d'un amour de tendresse, comme à l'occasion de la joie du mariage. L'un et l'autre se répondent, en effet, et témoignent ainsi de leur disposition amoureuse. Le fiancé s'adresse à son tour à l'Église en employant les mêmes termes que elle lorsque la première, dans le préambule, elle a célébré sa beauté. Dès ses premières paroles, quand elle exprimait par l'énigme du baiser, donne-moi des baisers de ta bouche, quand elle exprimait le désir de voir la parole de la bouche divine venir dans sa propre bouche, elle reconnaissait comme cause d'un tel désir la bonté des seins de son fiancé. Parce qu'ils fournissent, ils triomphent de la nature du vin et surpassent toute bonne odeur des parfums et des aromates. Tes seins sont meilleurs que le vin et l'odeur de tes parfums plus suave que tous les arômes, nous dit-elle au début du cantique. Partout ailleurs, aussi, la sagesse divine nous apprend ce dogme. La divinité est toujours en nous en fonction de l'être que nous révélons à Dieu en vertu de notre propre choix. Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Le sceau garantit l'inviolabilité de ce qu'il garde. Le cachet intimide, en effet, le voleur. Tout ce qui n'est pas dérobé demeure alors intact pour le propriétaire. Donc ici, l'éloge semble témoigner, pour la fiancée, de la vertu la plus haute. Sa pensée reste bien hors d'atteinte des ennemis. Elle est gardée dans la pureté et l'impassibilité pour son propre maître. La pureté scelle cette source. Aucune idée fangeuse ne vient troubler la limpidité et la transparence de son cœur. Tes jeunes pousses sont un paradis de grenades, avec des fruits exquis. Le troène et la rose, le nard et le safran, la cannelle et le cinnamone, avec tous les arbres à encens, la myrrhe et l'aloès, et tous les meilleurs aromates. Fontaine jaillissante, source d'eau vive qui ruisselle du Liban. Le voleur a du mal à s'approcher du grenadier car des épines protègent cet arbre qui également entoure son fruit lors de son mûrissement d'une enveloppe âcre et amère au goût. Le safran. Ceux qui ont bien perçu les vertus de cette fleur déclarent qu'elle est à mi-chemin entre le froid et le chaud et que parce qu'elle chasse l'excès qui touche l'un et l'autre, elle a le pouvoir de calmer les douleurs. Ainsi peut-être, par cette énigme, le verbe propose-t-il une méditation sur la vertu. En effet, toute vertu est à mi-chemin entre deux mots, le manque et l'excès de bien. Par exemple, le courage et la générosité. On dit que le courage est considéré comme un moyen terme entre la lâcheté et l'audace. Et la générosité comme un moyen terme entre l'avarice et la prodigalité. On dit aussi que la lâcheté et l'avarice sont des défauts par manque de ce qui convient, et que la prodigalité et l'audace le sont par surabondance et excès. On appelle alors vertu ce qui se situe entre ces deux extrêmes. Le cantique poursuit. Fontaine jaillissante, source d'eau vive qui ruisselle de l'encens. Voilà un paradoxe considérable. La fiancée est un puits d'eau vive dont le courant vient de l'encens. En effet, tous les puits ont une eau stagnante. Or, elle seule, la fiancée, a en elle de l'eau courante, si bien qu'elle présente en même temps la profondeur du puits et le mouvement incessant du fleuve. Qui pourrait se hisser convenablement au niveau de ces prodiges tels qu'ils sont décrits par la comparaison dont la fiancée est l'objet. Peut-elle encore s'élever maintenant qu'elle a été parfaitement assimilée à la beauté type? Elle imite exactement la source par sa source, la vie par sa vie, l'eau par son eau. La parole de Dieu est vivante et l'âme qui l'a reçu, vit aussi. Cette eau coule de Dieu, comme le dit la source, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, dit le Christ dans saint Jean. Elle embrasse ce qui coule dans le puits de l'âme. Aussi devient-elle le réservoir de cette eau vive qui coule de l'encens et mieux, qui ruisselle. Pour reprendre le terme du texte. Puissions-nous, nous aussi, participer à cette eau en possédant ce puits, afin que, selon le commandement de la sagesse, nous buvions notre propre eau, non une étrangère. En Christ Jésus, notre Seigneur, gloire à lui, pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre prochaine émission, nous terminerons avec Grégoire Denis ces très belles homélies sur le Cantique de Cantiques, et nous découvrirons la pensée de Saint Bernard et sa mystique à ce sujet-là.
C'était les mystiques d'Occident, une émission présentée par Hélène.